J'espère que le week-end de l'Ascension s'est bien passé, se passe encore bien, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour peut-être. En tout cas, on sent qu'il y a un air de vacances, n'est-ce pas, avec nouvelles personnes qui sont parmi nous et d'autres qui sont sans doute parties profiter de ces jours pour se reposer. Diane, Eric, John, Sarah, mon épouse et moi-même avons profité de ce week-end à rallonge pour aller participer à au congrès de notre fédération baptiste à Nîmes. Et c'était un moment très fort, comme chaque année d'ailleurs, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils diront avec moi que l'adage qui dit que l'union fait la force se confirme à chaque fois davantage, n'est-ce pas? C'est bien d'être, que notre Église soit membre d'une union d'Église. Notre union d'Église n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une bonne chose parce que l'union fait vraiment la force. On peut faire des choses ensemble qu'on ne pourrait pas faire si nous étions isolés, chacun dans son coin. Et je vais déjà vous donner une bonne nouvelle, c'est que notre fédération, c'est-à-dire l'ensemble de nos églises, ont accepté donc de faire partie du CNEF, n'est-ce pas? Nous avons fait un vote récemment, ce Conseil national d'églises évangéliques. Donc cela veut dire que nous sommes les premiers, avec d'autres, à construire cette unité dont le Christ a parlé, cette unité chrétienne. Nous allons tout faire pour que cette unité soit vraiment visible déjà au sein des églises évangéliques, n'est-ce pas, et qu'on puisse même aller plus loin dans l'essentiel de la foi chrétienne. Mais revenons à l'Ascension, puisque l'heure passe et c'est sur l'Ascension que j'aimerais parler ce matin. À quoi pensent les gens lorsqu'on parle de l'Ascension? On pourrait aller faire un petit exercice dehors, n'est-ce pas? Il y a des gens qui passent et demandent « L'Ascension, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?» Et il y aurait sans doute beaucoup de réponses et des réponses variées. S'il y a des gens qui aiment l'alpinisme, ils nous diraient « Oh, je pense au Mont Blanc, je pense à l'Himalaya, au Kilimandjaro, n'est-ce pas ? » Il y a d'autres montagnes, voilà, à l'ascension de ces montagnes-là. D'autres peut-être diraient « Oh, le mot ascension me fait penser au festival de Cannes, hein, la montée des marches, n'est-ce pas, à Cannes, avec des gens très connus, des gens qui sont vraiment montés dans la société et qui ont une notoriété reconnue par tous. Ce sont certains privilégiés de la société. D'autres encore diraient que l'ascension est pour eux synonyme de quelques jours de vacances, en avant-goût des grandes vacances, puisqu'on a un week-end, on fait le pont ou un viaduc pour certains, n'est-ce pas? On profite pour se reposer, ça sent déjà les grandes vacances qui s'approchent. Et puis peut-être on aurait la chance de trouver un petit chrétien qui passe par là par hasard et qui dit « Oh, l'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel, parce qu'il connaît les textes bibliques. C'est l'enlèvement de Jésus au ciel, 40 jours après sa résurrection, il est allé rejoindre sa place au ciel, puisqu'il est venu du ciel, n'est-ce pas? Il est retourné au ciel, rejoindre Dieu le Père. » Alors peut-être que vous vous demandez, mais quelle est l'importance de cet événement pour nous les chrétiens? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de parler de l'ascension? La Bible en parle. Et depuis toujours, même les confessions chrétiennes, les confessions des églises chrétiennes, en parle, l'ascension, l'élévation de Jésus au ciel. Jésus qui est allé rejoindre Dieu le Père, où il est assis à la droite de Dieu, où il exerce un ministère très important pour nous les chrétiens. Et il faut en parler. Il exerce un ministère au ciel pour nous les chrétiens, en notre faveur. Donc c'est un événement très important. Après sa mission sur la terre, après cette mission qu'il est venu accomplir parmi nous, il est monté au ciel et il continue à exercer maintenant un autre ministère en notre faveur. Avant de voir l'importance qu'a l'ascension de Jésus pour nous, je vous propose d'abord de lire un premier passage de la Bible dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, c'est un passage parmi d'autres qui parle de cet événement. On va lire à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Marc et Luc parlent de cet événement et ils parlent d'une manière très laconique. Ils ne disent pas beaucoup de choses, ils disent sans doute l'essentiel, mais c'est vraiment très, d'une manière très laconique. Ils expliquent ce qui s'est passé avant, pendant et après, mais d'une manière très, très, très précise, très, très, très résumée. Et on voit qu'après avoir donné ces dernières consignes aux disciples concernant la mission, leur mission, la mission de l'Église dans ce monde, après leur avoir promis la puissance du Saint-Esprit, puisqu'il allait quitter son Église, il fallait qu'on ait cette puissance du Saint-Esprit en nous pour accomplir notre mission sur cette terre et vivre tout simplement notre vie chrétienne. Et après les avoir bénis, Jésus était enlevé, c'est le mot qui est là, n'est-ce pas? Il est enlevé au ciel. Il est pris. Et donc, il va au ciel rejoindre sa place auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Alors, si je me mets à la place des disciples, je me dis, mais ça doit être, c'était vraiment quelque chose de fou. D'abord, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, la semaine de la Passion, la semaine sainte, la crucifixion de Jésus, l'arrestation, la crucifixion de Jésus, 3 jours après sa résurrection, 40 jours après l'ascension de Jésus au ciel, les disciples devaient être complètement bouleversés avec tout ce qu'ils avaient vu, hein, avec tout ce qu'ils avaient vu. Alors on peut se poser la question, mais les lois de la pesanteur et tout ça, mais c'est lui qui les a créés, n'est-ce pas? Celui qui l'a enlevé au ciel, c'est lui le créateur de toutes ces choses. Et en plus, les textes nous disent que Jésus avait un corps glorieux après sa résurrection. Il pouvait aller partout, entrer dans n'importe quelle pièce fermée. Ce corps glorieux, ce corps est parti devant ses disciples. Il est allé rejoindre sa place au ciel. Ensuite, pour voir très rapidement, bien sûr, l'importance de l'ascension, nous lirons un autre passage dans la lettre aux Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Et ce passage, je l'ai mis sur transparent afin que nous puissions le suivre de plus près. Ah, par contre, ça va être difficile. Alors, je vais lire le passage. J'aurais dû faire des marges moins étroites. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la paix de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné, que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une fois pour toutes, une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà un passage de la Bible très riche et mis quelques phrases en gras, quelques phrases qui attirent mon attention. Et ce passage nous apprend, entre autres, les raisons finalement de l'ascension de Jésus-Christ. L'auteur est un chrétien d'origine juive qui écrit à des chrétiens hébreux, probablement de la diaspora, des chrétiens juifs donc qui se sont convertis au christianisme et qui connaissaient bien toute la symbolique de l'Ancien Testament, notamment toute la symbolique liée au sacrifice dans le tabernacle ou dans le temple, d'où le langage très ancien testament de ce texte. Il utilise cette symbolique pour l'appliquer finalement à Jésus-Christ. Jésus-Christ, on a chanté tout à l'heure l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il rappelle à ses lecteurs que tous ces gestes et tous ces symboles de l'Ancien Testament annoncer à l'avance l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Pour lui, il n'y a pas de doute. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la révélation finale et l'accomplissement total et parfait du plan de Dieu pour nous. C'est en lui que reposent donc tous nos espoirs. Et cette lettre aux Hébreux fait partie d'un ensemble d'écrits du Nouveau Testament qui nous rapporte beaucoup de choses donc sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur l'ensemble de l'œuvre de Jésus-Christ. Depuis sa naissance à Bethléem, jusqu'à sa mort sur la croix, sa résurrection et même son ascension, comme on le voit ici. Et en lisant ces passages bibliques, nous comprenons que finalement, le retour de Jésus au ciel après sa résurrection s'insère parfaitement dans le plan de Dieu, le plan qu'il avait établi dès le départ, dès le début. Comme tout ce qui concerne sa personne et son œuvre, son ascension avait été prévue par le Seigneur, elle avait été prophétisée dans les Saintes Écritures. Nous avons par exemple le psaume 24 qui en parle. Qui s'élèvera jusqu'au saint-lieu de l'Éternel, le lieu saint, le saint-lieu de l'Éternel? « Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Ce roi de gloire, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. L'ascension était donc prévue par Dieu et nécessaire. D'où l'importance de connaître la signification spirituelle de cet événement pour nous. Le récit de l'Évangile serait incomplet si on n'avait pas cette partie-là qui nous parle de l'ascension de Jésus. Ce passage nous permet de relever trois éléments. Je vais passer assez vite parce que, on a déjà lu pas mal de textes bibliques ce matin, il y en aura d'autres occasions. Mais ces trois éléments. D'abord, je dirais que l'ascension de Jésus complète l'œuvre de salut qu'il est venu accomplir pour nous, l'œuvre de rédemption, puisque le texte utilise le mot rédemption, l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie en faveur de l'humanité, et pour utiliser un autre mot du texte, l'expiation faite pour le péché. Ces mots méritent explication, bien sûr. Ce sont des mots bibliques qui appartiennent à un certain contexte. Et le mot rédemption, le mot rançon, est utilisé pour parler de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour effectuer notre salut. Pour effectuer notre salut, le salut de la race humaine tombée dans le péché. Le mot rédemption signifie payer un prix pour rendre libre. Et quand on parle de la rédemption dans la Bible, on parle de cela, on parle du prix que Jésus a payé à la croix pour nous rendre libres, pour nous libérer de la condamnation qui pesait sur nous à cause de notre péché. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Et comme nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés à la mort. Jésus a payé le prix de notre salut, de notre rédemption. Et le mot expiation signifie que du sang a été versé pour le péché, comme dans l'Ancien Testament. Le sang du sacrifice des animaux. Ici, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé une fois pour toutes pour le péché de l'humanité. Nous avons du mal, n'est-ce pas, lorsque des coupables dans notre société ne sont pas punis, n'est-ce pas? Dieu ne voulait pas non plus laisser impuni le péché de l'homme. Il ne voulait pas. Et la sentence a été proclamée. Tu mourras. Tu as désobéi, tu as péché, tu mourras. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève, n'est-ce pas? Et donc, notre Dieu, qui est un Dieu de justice, est un Dieu d'amour, il a accompli ce qu'il avait dit. Il a rendu justice, mais il a rendu justice par Jésus-Christ, qui a pris volontairement notre place à la croix. Jésus-Christ a été notre substitut. Mais tout cela, il fallait le préparer. Et c'est pour cela qu'il y a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la préparation du salut. Dieu a agi par étapes dans la vie de l'humanité, n'est-ce pas? Il a commencé par exiger du peuple d'Israël des sacrifices dans le tabernacle quand Israël était dans le désert, dans le temple quand Israël était déjà dans la terre promise, le temple à Jérusalem. Et il a demandé à ce qu'il y ait les hommes, les croyants, fassent des sacrifices pour montrer la gravité du péché. Pour montrer la gravité du péché. Le péché était quelque chose de très grave à ses yeux. Il fallait qu'il y ait du sang versé pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit le verset 29. Les chrétiens, les croyants, donc, amenaient des animaux qui étaient égorgés par les sacrificateurs et le sang était présenté dans le tabernacle symboliquement à Dieu pour le pardon des péchés. C'était une justice provisoire qui était faite vis-à-vis du péché, ce qui permettait donc de justifier l'homme pécheur aux yeux de Dieu. Tout cela en attendant que le sacrifice suprême soit accompli par Jésus-Christ, que la justification complète de l'homme soit faite par le sacrifice sur la croix. Or, ce passage nous parle du souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est entré une fois pour toutes dans le lieu saint. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois pour toutes, une fois chaque année, en présentant le sang du sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Or, ce texte nous dit que Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, le sang qu'il a versé pour le péché de l'humanité. Ça veut dire que Jésus-Christ a été non seulement l'agneau de Dieu qui a donné sa vie, mais il avait une deuxième fonction d'être le souverain sacrificateur qui allait entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire le ciel devant la présence de Dieu. Cela veut dire que notre rédemption, la rédemption, c'est-à-dire le prix, comme je disais tout à l'heure, qui a été payé, est une rédemption parfaite. Le salut a été accompli. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de venir avec des boucs et des agneaux ici à l'église pour les égorger, parce que le sacrifice de Jésus a été fait une fois pour toutes. Deuxième élément important, c'est que l'ascension est une garantie de salut pour tous. Une garantie de salut pour tous. Vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les sacrifices étaient faits selon un rituel bien établi, bien précis, bien connu des croyants de l'Ancienne Alliance. Il y avait d'abord la mise à mort de l'animal et ensuite l'entrée donc du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, le jour des expiations, de la grande expiation, n'est-ce pas, du péché. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait exactement selon ce plan établi dans l'Ancienne Alliance. Il a accompli son sacrifice sur la croix. Il y a eu sa résurrection et il est monté au ciel, au lieu saint, avec son propre sang, pour le présenter à Dieu le Père et pour dire, ceux qui sont sur la terre, mes frères et sœurs qui sont sur la terre, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont cru en mon sacrifice, voilà ce que j'ai fait pour eux. Ils sont sauvés de la condamnation éternelle. Dans cette même lettre, au chapitre 5, verset 9, il nous est dit que par l'obéissance de Jésus-Christ, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. D'un salut éternel. Pas d'un petit salut, mais d'un salut éternel. Pas d'un salut pour quelques jours, quelques semaines, quelques années, mais d'un salut éternel. D'un salut éternel. Il faut dire que les sacrifices d'animaux n'avaient pas en eux-mêmes le pouvoir de sauver. Tout cela était très symbolique, n'est-ce pas? C'était pour montrer la foi du croyant qui venait avec cet animal pour être sacrifié. C'était très symbolique. Ces sacrifices étaient accomplis par la foi. Et surtout la foi en celui qui devait venir, le Messie promis, qui devait accomplir le grand sacrifice une fois pour toutes. Le Seigneur Jésus est devenu une victime expiatoire pour nos péchés et pour les péchés du monde entier, lisons-nous dans la parole de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il nous est dit « Ainsi donc que nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire le ciel, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, ce fameux rideau qui s'est déchiré le jour où le Christ est mort sur la croix. Donc un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que nous donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Notre Sauveur se trouve dans ce lieu saint, au ciel, et nous pourrons le rejoindre aussi un jour, parce que justement, il y est avec son propre sang. Troisième et dernier élément, c'est que l'ascension de Jésus, nous disent les textes bibliques, est la garantie que nous avons aussi quelqu'un qui intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Et je pense que cela est très important, parce que même si nous avons demandé pardon à Dieu, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, nous savons bien que nous succombons souvent à la tentation, n'est-ce pas? Nous le savons bien. Et donc nous avons besoin de quelqu'un qui intercède pour nous auprès de Dieu. Et Les textes bibliques, celui-ci et beaucoup d'autres, nous disent que c'est la mission de Jésus-Christ au ciel, c'est d'intercéder pour ses frères et sœurs, pour ceux qu'il a sauvés. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, nous lisons à propos du sacerdoce perpétuel de Jésus-Christ. « Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » C'est grâce à l'ascension de Jésus-Christ, n'est-ce pas, au ciel, que Jésus assume maintenant et pleinement ce ministère de prière, d'intercession, en notre faveur. Il plaide la cause de ceux qui mettent en lui leur confiance. Le message de l'ascension constitue, frères et sœurs, une vraie consolation pour nous les chrétiens, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Pour ceux qui savent que tout au long de leur pèlerinage ici sur cette terre, ils peuvent s'approcher de ce médiateur qui est au ciel. Ils peuvent se rappeler que lui, il est mort et ressuscité et qu'il est auprès de Dieu le Père pour intercéder pour nos péchés. Il a fait son entrée dans le lieu saint, dans le saint des saints. Et là, il intercède pour nous, même lorsque nous tombons. Voilà, frères et sœurs, pourquoi l'ascension de Jésus-Christ est un événement important. Elle est la garantie de la pleine réalisation du plan divin à notre faveur. Ce qu'il a fait pour nous sauver, il l'a fait jusqu'au bout. Il l'a fait jusqu'au bout. Et il est allé nous ouvrir les portes du ciel. Après avoir donné sa vie en rançon pour les péchés dans ce monde, il devait entrer dans le lieu très saint par les mérites de son propre sacrifice, son sacrifice sur la croix, pour apparaître devant Dieu le Père comme le précurseur des rachetés que nous sommes. L'ascension de Jésus, voilà un événement nécessaire, n'est-ce pas? Ce que nous pouvons faire, c'est de rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui, ce ministère qu'il exerce au ciel en notre faveur.